Zamba.
Zambi la Samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonjour, bonsoir à vous tous qui nous suivez. Vous êtes sur la radio Inzamba à Gata Kakawe. C'est le journal de la rétrospective de la semaine. Joséphine Johnson-Zimana, j'ai le plaisir d'être avec vous à la présentation. Bienvenue.
Inzamba.
La magistrature burundaise travaille en toute indépendance et une justice de proximité a été mise en place pour garantir une justice sociale au Burundi. Propos du président de la République dans son message ce jeudi à la tribune de l'ONU. Cependant, il y a un mois, Évariste Ndayishimiye avait annoncé que la justice burundaise est gangrénée par la corruption. Il s'adressait à tout le corps de la magistrature burundaise. Le point avec Beni Axelakana.
Mesdames, Messieurs, tout protocole observé.
C'est en marge de son discours à la tribune de l'ONU ce mercredi, le président de la République du Burundi dit que son gouvernement a mis en avant la bonne gouvernance et la justice sociale en luttant contre la corruption, les malversations économiques et l'impunité. Évariste Ndayishimiye a indiqué que dans le but de renforcer la bonne gouvernance, la magistrature a été dotée d'un conseil supérieur de la magistrature opérationnelle et une justice de proximité proche des justiciables. Évariste Ndayishimiye.
Pour ce qui est effectivement de la lutte contre l'impunité et la prévention des conflits sociaux, le Burundi a mis en avant les mécanismes de justice de proximité afin de permettre à tous les Burundais d'avoir un accès rapide et égal à la justice équitable. Aussi, des efforts ont été consentis pour rendre réelle l'indépendance et l'impartialité de la magistrature en rendant opérationnel le Conseil supérieur de la magistrature.
Ces propos du président de la République à la tribune de l'ONU à New York constituent un double langage. Évariste Ndayishimiye, il y a exactement un mois, le 23 août dernier, il avait rassemblé les hauts cadres de la magistrature burundaise. Il les avait accusés ouvertement d'être à l'origine de tous les maux que connaît le Burundi à cause de la corruption qui gangrène la justice burundaise. Évariste Ndayishimiye avait fait remarquer que ces magistrats mettent à genoux l'économie du pays. Il les avait rassemblés pour pleurer devant eux, à la place de la population transformée en victime. Évariste Ndayishimiye.
Mes douleurs ne se lisent pas sur le visage. À un certain moment, j'ai failli prendre la décision d'aller pleurer sur la place du marché pour me soulager et entrer après. Comment se fait-il que les magistrats soient à la base de la pauvreté du Burundi? Ils sont venus pleurer devant moi. À mon tour, avant de pleurer, je leur ai répondu que je dois d'abord pleurer devant vous. Si je vous trouve impitoyable, je vais laisser tomber. Vous n'avez même pas pitié car le père de la nation perd devant vous.
Ce double langage du président Ndayishimiye est fustigé par l'initiative des droits de l'homme au Burundi. Sur son compte Twitter, l'IDHB a réagi à chaud en rappelant que le système judiciaire burundais reste profondément dysfonctionnel et manque de l'indépendance à une année après l'accession à la présidence de la République de Ndayishimiye. Rappelons que le Burundi avait vu son président siégeant à la tribune des Nations Unies en 2011, il y a 10 ans, et le président Évariste Ndayishimiye a répondu à la 76e Assemblée générale des Nations Unies.
Ce double langage au sujet de la justice burundaise ne fait que berner le numéro 1 burundais devant la communauté internationale. Lecture du secrétaire général du FOCODE, Forum pour la conscience et le développement, Maître Janvier Bigirimana, appelle le président de la République à s'investir pleinement pour garantir le bon fonctionnement de la justice. Cela pourrait contribuer dans l'amélioration des droits de l'homme dans le pays. On l'écoute.
Ce sont des propos ridicules parce que lui-même vient de se contredire. Tout ceci montre que lorsque le pouvoir judiciaire burundais ne parvient pas à défendre les droits et libertés des citoyens, alors qu'il était le rempart, le dernier rempart face à la violation des droits des citoyens, et nous pensons que il devient en quelque sorte la risée du monde entier lorsqu'il ose proclamer que tout va mieux au Burundi, alors que lui-même, dans ses propos antérieurs récents, il a déjà proclamé que la situation du pouvoir judiciaire burundais était scandaleuse. Donc, Et nous pensons que ce sont des propos qui ne tiennent pas la route, ce sont des propos contradictoires par rapport aux autres déclarations, ce sont des propos contradictoires par rapport à la réalité du Burundi, et notamment par rapport à ce qui a été constaté par la commission d'enquête des Nations Unies, ainsi que les rapports des organisations de défense des droits humains, qui ne cessent de démontrer à qui veut entendre que cette situation des droits humains au Burundi est très préoccupante.
Le procureur général de la République pointe du doigt certains leaders politiques et ceux de la société civile qui sont les commanditaires des actes de terrorisme commis avant le mois de septembre de cette année. Sylvestre Nyandwi l'a annoncé dans une déclaration lue devant la presse mercredi à Bujumbura. Il indique également que les enquêtes pour traquer les commanditaires des récentes attaques à la grenade à Bujumbura et à Gitega sont en cours. Écoutez Sylvestre Nyandwi, le procureur général de la République.
Pour les actes criminels commis avant le 20 septembre 2021, nous avions déjà annoncé que des dossiers avaient été ouverts et que des enquêtes étaient en cours. Les auteurs appréhendés seront jugés incessamment conformément à la loi. Les enquêtes déjà menées ont révélé que ces actes sont commis par une bande de terroristes dirigée par les personnes suivantes. Alexis Nduhije, qui est à la tête de cette bande, François Nyamoya, Marguerite Varanghitse, Biremba Melkiad, Nibigira Jean-Claude alias Bayaga, Niyukuri Nicolas alias Gisiga, Bahati Gad, Ndayiragije Lieve alias 26 et bien d'autres non encore identifiés mais encore recherchés. Pour les actes commis dans la soirée du 20 septembre 2021, nous avons ouvert un dossier à savoir RMPG 873-K.I-BJB. Comme les dirigeants de cette bande citée si haut ne résident pas sur le sol burundais, nous avons décidé de lancer contre eux des mandats d'arrêt internationaux pour que les pays qui les hébergent puissent les arrêter et les livrer à la justice burundaise pour qu'ils répondent de leurs actes. Nous lançons encore une fois un appel à toute personne qui détiendrait une information en rapport avec ces actes de terrorisme de la confier au parquet le plus proche ou à la police. Des mesures ont été prises pour garantir le secret de leur identité.
Des réactions n'ont pas tardé à tomber dans la foulée. François Nyamoya, secrétaire général du parti MSD, cité par le procureur général, indique que les enquêtes menées par le parquet général sont d'ordre politique. La fondatrice de la Maison Shalom, elle, considère que ces accusations rentre dans la droite ligne de persécution lui infligée par le pouvoir du CNDD-FDD. Marguerite Varanghitse indique qu'elle ne cessera jamais d'accomplir son devoir citoyen de venir en aide aux personnes vulnérables. Et le mouvement Red Tavara a condamné de son côté les attaques à la grenade survenues dans différentes villes du pays où des personnes ont été tuées et d'autres blessées. Ce mouvement accuse le parti au pouvoir CNDD-FDD de semer la terreur au sein de la population pour l'empêcher de revendiquer ses droits, a indiqué Patrick Nahimana, porte-parole du mouvement Red Tavara. L'Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues, APRODH, condamne également les récents propos du procureur général Sylvestre Nyandwi. Pierre Claver Monima, le président de l'APRODH, explique que les propos de ce procureur ne sont pas, selon lui, étonnants, arguant qu'il a toujours été un instrument du pouvoir CNDD-FDD. Pierre Claver Monima.
Le procureur général de la République, oui, il a dit qu'il a cité quelques noms et quelques partis politiques pour avoir fait ces attaques au Burundi. Mais bon, pour moi, je pense que cette enquête n'est pas acceptable. Mais à ce qui concerne en général l'attaque du pays en général, il y a des mouvements rebelles, il y a des tabacs qui a déclaré ça, qui va combattre le gouvernement jusqu'à bout. Voilà, je crois que c'est à partir de là que la guerre peut éclater au Burundi une fois que le gouvernement ne veut pas s'asseoir sur la table de négociation et amener sur la table l'accord d'Arusha, même s'ils peuvent amender l'accord d'Arusha. Mais l'accord d'Arusha est la base de la paix au Burundi. Une fois que l'accord d'Arusha n'est pas respecté, n'est pas revu, je vous jure qu'il n'y aura pas de paix crédible au Burundi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Le lieutenant-colonel et défense Savalanikwa ne sera pas commandant du 7e bataillon de la MINUSCA, mission de maintien de la paix en Centrafrique. Il a été remplacé par le colonel Papien Nzeimana. Son changement intervient après plus de 4 mois de confinement pré-déploiement au camp de transit de Mudugu en province de Bubanza. La société civile avait dénoncé ce commandant des prochains casques bleus burundais d'avoir trempé dans des violations graves des droits de l'homme. On fait le point avec Jean-Marie Ndabashinze.
Le lieutenant-colonel Ildefonse Baranyikwa est remplacé après que les Nations Unies aient reporté s'inédit des opérations de déploiement initialement prévues en juillet dernier. Les premiers éléments devraient atterrir à Bangui le 28 juillet. Les Nations Unies ont exigé au préalable l'identification de tous les militaires retenus pour cette mission des Nations Unies pour le maintien de la paix en Centrafrique. Il a fallu que le lieutenant-colonel Baranyikwa s'exécute en même temps que ses hommes, et c'est lui qui a fini par tomber. Parlant de son parcours, le lieutenant-colonel Baranyikwa était pendant longtemps commandant du 112e bataillon d'infanterie en province Cibitoke. À son époque, un important arsenal militaire composé de plus de 120 armes a été découvert dans la zone sous son contrôle. Aucune de ces armes n'était enregistrée nulle part. Certains des militaires soupçonnaient le lieutenant-colonel Baranyikwa d'avoir utilisé ses fusils dans des opérations en République démocratique du Congo pour équiper les Imbonerakure qui faisaient partie des hommes sous son commandement. Les mêmes armes seraient également utilisées par Baranyikwa dans des exécutions extrajudiciaires des personnes arrêtées par les renseignements militaires et le Service national de renseignement. Le lieutenant-colonel Ildefonse Baranyikwa est reproché d'avoir participé dans beaucoup de violations des droits humains. Des sources de certains officiers de l'armée indiquent néanmoins que le lieutenant-colonel Baranyikwa pourrait être affecté dans la mission en Somalie ou au MCVE, le mécanisme militaire conjoint de vérification élargissant les frontières des pays de la région des Grands Lacs.
C'est un gain de cause pour les militants en faveur des droits de l'homme au Burundi qui n'ont cessé de dénoncer sa nomination au commandement du contingent à la mission de maintien de la paix en République centrafricaine. C'est la réaction de Vital Chimilimana, délégué général du Forum permanent pour la société civile burundaise, FORSC. Pour lui, le lieutenant-colonel Ildefonse Baranyikwa devrait être arrêté par la cour militaire du Burundi pour répondre aux exactions qu'il a commises dans son pays. Eh bien voilà, c'est ici la fin de ce journal de la rétrospective de la semaine. Vous étiez avec Joséphine Jobs-Dimana. Au revoir et à la prochaine.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.